Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent via Zoom. Aujourd'hui est un jour spécial puisque la prédication est une histoire. Jésus aimait raconter des histoires pour illustrer son enseignement. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. La Bible nous raconte de belles histoires d'hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur en lui faisant une entière confiance et qui furent bénis. Leur parcours, pourtant, n'a pas toujours été facile, loin s'en faut. Je me propose de faire ce matin la même chose, une histoire vraie, vécue en Espagne, qui montre l'efficacité de la prière persévérante. J'ai invité donc les enfants ce matin à rester avec nous pour profiter de cette histoire. Cette histoire, nous la devons à Émile Cerezuela. Peut-être quelques-uns s'en souviennent. Il était avec nous et il nous a quittés il y a une dizaine d'années. C'est aussi le beau-frère de Gilbert Montesino. Donc une histoire qu'il a traduite de l'espagnol en français. Et notons aussi que Jean Pongy, le papa de Jean-Pierre, a participé à la correction en relecture. J'ai dû supprimer quelques lignes à regret pour respecter le temps qui m'était imparti. Vous voyez donc son histoire est là-dedans. Et tout a été écrit au normographe. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez ce que c'est qu'un normographe? C'est un bout de plastique dans lequel il y a des lettres, et donc il faut faire lettre par lettre. On va essayer la télécommande. Bravo. L'enfant de la forêt et son chien pilote. Il y a fort longtemps de cela, c'était au XIXe siècle, près d'une immense forêt, un bûcheron appelé Roger Sanchez était avec ses sept enfants, et le narrateur ne se souvient pas du nom des six premiers, mais il se souvient du nom du plus petit, Guillermo. Guillermo était encore tout petit quand sa mère mourut. C'est ainsi que le soin des enfants resta à la charge du père. C'était un homme adroit, courageux, et ce qu'il gagnait suffisait aux besoins de la famille. Le temps venu, il fit travailler aussi les plus aînés, les costauds également, et il l'aidait bien. Et donc l'ensemble suffisait pour la famille. Ils auraient pu être heureux, mais il leur manquait une chose, sans laquelle aucune famille ne peut connaître le vrai bonheur. Le bûcheron était indifférent aux choses de Dieu, et il ne cherchait pas à enseigner ses enfants comment l'adorer. C'est d'autant plus surprenant, car étant encore tout jeune, sa mère lui avait appris la parole de Dieu et la crainte du Seigneur. Mais le père ne pensait pas, ni à son sauveur, ni aux préceptes de sa mère, jusqu'à ce que Dieu, par le moyen d'un accident, le fasse réfléchir. Un jour, lui et ses enfants se trouvaient dans la forêt, en train d'abattre un arbre. Dans sa chute, celui-ci s'écroula sur le pauvre bûcheron, le laissant malheureusement si meurtri qu'il ne put travailler. Par la suite, ce malheur ramena avec lui une terrible maladie qui finira par l'emporter. Il souffrait beaucoup et son esprit était troublé par d'amères pensées. Tous les péchés de sa vie passée, l'abandon dans lequel il avait laissé sa mère veuve, dont il n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs années, les regrets de son indifférence, tout cela assombrissait d'interminables journées. C'est alors qu'il commença à rappeler ses enfants leurs devoirs envers Dieu, leur parlant fréquemment du Sauveur et de leur vie future. Pas un jour ne s'écoulait sans qu'il priât les siens de se convertir à Dieu. Mais ceux-ci ne voulaient rien entendre, et même se moquer de lui. Seul un de ses enfants avait de la compassion pour lui. C'était le plus jeune, Guillermo, qui venait d'avoir 5 ans seulement quand eut lieu l'accident. Quand le bûcheron était couché, il s'asseyait à la tête de son lit et veillait sur lui. Il l'accompagnait jusqu'à la lisière de la forêt pour se promener quand il était encore suffisamment costaud. Et puis, un jour, un de ses frères était parti chasser, ou plutôt voler des cerfs. Le père et son plus jeune fils restèrent seuls, avec Pilote, le chien de Guillermo, couché à ses pieds. Alors le bûcheron lui confia, se confia et s'adressa à son enfant et lui dit « Oh mon fils, mon unique consolation, combien j'ai été méchant quand tes frères étaient petits, comme toi. Je ne les ai pas amenés à Dieu. Hélas, maintenant c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire pour eux. Ils ne veulent pas m'écouter et se retournent contre moi. Je n'ai que ce que je mérite. J'ai été, moi aussi, un fils désobéissant. Ma mère aimait Dieu. J'étais son fils unique, tendrement aimé. Tout petit, elle m'enseigna la parole de Dieu. Je grandis, mais j'aimais beaucoup plus les plaisirs du monde que Dieu. Un jour, je me suis enfui de chez moi. Et depuis, je n'ai plus vu ma chère mère. Je n'ai plus entendu parler d'elle. Vit-elle encore ? Demanda Guillermo. Je ne sais pas, hélas. Si seulement elle pouvait savoir combien ma repentance est profonde et que je me suis confié à mon Rédempteur pour être sauvé du châtiment éternel. Mes enfants se sont endurcis, mais il faut prier pour eux. Le Seigneur Jésus changera leur cœur. C'est ainsi que Guillermo et son père, confiants dans la miséricorde du Seigneur, priaient pour eux chaque jour, avec ferveur et persévérance, pour que Dieu accomplisse son œuvre et change leur cœur. Quelques jours après cette conversation, l'état du bûcheron s'aggrava. Et il dit à son fils, d'une voix faible mais calme, « Mon cher petit, je suis sûr que mes prières ont été exaucées et mes péchés pardonnés grâce à l'amour du Sauveur. Je suis confiant. » Après avoir embrassé plusieurs fois le visage baigné de larmes de l'enfant, il lui dit encore comme dans un souffle, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » À la tombée de la nuit, ses frères rentrèrent avec un cerf qu'ils avaient tué et un tonnelé de rhum qu'ils avaient acheté. Ils ne firent aucun cas de leur père. Ils invitèrent Guillermo à partager leur repas, mais il refusa. Il refusa de quitter le chevet de son père. Il le veilla longuement, puis, terrassé par le sommeil, il s'endormit. Au lever du jour, quand il se réveilla, il trouva son père mort. Guillermo, tout en pleurs, embrassa le visage froid de son père et resta là, prostré, jusqu'au réveil de ses frères. Ils ensevelirent leur père le jour suivant dans un coin sombre de la forêt, tout près de leur cabane. Puis revinrent chez eux, se régaler du reste du cerf et du rhum. Peu de temps après le décès de leur père, irrités par la manière d'agir de leur frère, ils complotèrent contre lui. « Il ne peut pas rester avec nous », dit l'un d'eux. « Si nous tuons des servants du roi, il pourrait bien nous dénoncer. » Ils décidèrent de se débarrasser en l'abandonnant dans la forêt. Ils exécutèrent leur horrible plan. Le matin suivant leur décision de l'abandonner, ils se levèrent tôt, réveillèrent Guillermo, l'aidèrent à s'habiller, le placèrent encore somnolent sur un âne et partirent après avoir attaché le chien pilote dans la cabane. La 3. Diapo numéro 3. « Où allons-nous ?» questionna Guillermo, qui ne se doutait pas de leur méchanceté. « Nous allons chasser à 3 jours d'ici, » répondit l'aîné, « et tu viens avec nous. » Ainsi, ils partèrent et marchèrent effectivement pendant 3 jours, ne s'arrêtant que pour se reposer et se restaurer pendant le jour. La nuit, ils dormaient à même le sol et ils laissaient un veilleur auprès d'un feu pour éloigner les loups. Le soir du 3e jour, ils s'arrêtèrent au carrefour des 4 chemins. Ils mangèrent, puis s'allongèrent sur le sol pour dormir. Bien que fatigué, Guillermo se mit à genoux pour prier. Joignant les mains comme son père le lui avait enseigné, il implora « Ô mon Dieu, prends bien soin de moi. Mon père est mort, mes frères me parlent avec dureté, personne ne s'occupe de moi. Je suis tout seul. » « Mon Dieu, prends bien soin de moi au nom de l'amour de mon cher Sauveur. » Après avoir prié, il s'allongea auprès de l'âne et allait s'endormir quand il sembla entendre une voix, une douce voix, auprès de lui qui lui disait « Mon enfant, n'aie pas peur, je prendrai soin de toi. » Alors il se leva, regarda autour de lui, pour savoir qui lui avait parlé. Mais il ne vit que ses frères endormis et le veilleur au pied du feu, bien tranquille, les coudes appuyés sur les genoux. Rassuré, confiant, Guillermo, certain que les paroles entendues avaient été données par son bon Père Céleste, sombra dans un sommeil paisible. Profondément endormi, il n'entendit pas partir ses frères. Ceux-ci, levés dès l'aube, mirent leur horrible projet à exécution. Les rayons brûlants du soleil, filtrant à travers le feuillage, le bruit de 2 corneilles juchées sur une branche le réveillèrent enfin. Ouvrant les yeux, mais encore assoupi, il se sentait bien. Tout d'un coup, Guillermo prit conscience d'être complètement seul, seul, abandonné par ses frères. Même l'âne avait disparu. Mais où se trouvait-il maintenant ? Debout, affolé, Guillermo pleura amèrement. Il appela dans toutes les directions. Sa voix résonnait dans la forêt silencieuse. Mais aucune réponse ne venait, bien sûr. « Pourquoi m'ont-ils conduit ici pour m'abandonner ? » gémit-il. « Ô mon pauvre père, si tu voyais ton petit, combien tu serais affligé. Maintenant, tu es avec Dieu, tu ne peux pas me voir. Mais Dieu, lui, me voit. Il prendra soin de moi. Et si les bêtes sauvages me dévorent, mon âme ira au ciel. » Alors Guillermo fit ce que tous les enfants devraient faire quand ils sont affligés et ont besoin d'être consolés. Il s'agenouilla et pria avec sincérité et ferveur, demandant à Dieu son aide et son secours. La paix revenue dans son cœur, il s'efforça de s'orienter. Quel chemin ont-ils pris ? Il chercha des traces récentes, mais n'en trouva pas. Peut-être sont-ils partis chasser le cerf et reviendront-ils me chercher ? Dans l'espoir du retour de ses frères, il décida de ne plus bouger de ce coin de forêt. À midi, il eut faim et soif. Et donc il trouva des restes du repas de leurs frères, et tout près, ils découvrirent une source et purent épancher sa soif. Ainsi, Dieu lui procura un repas dans le désert. Guillermo était très reconnaissant, et sa confiance en Dieu fut plus grande encore. Nous arrivons maintenant au moment le plus pénible, le plus dur vécu par Guillermo, mais aussi et surtout la délivrance que son Père Céleste va lui accorder. La forêt s'était obscurcie. Guillermo avait perdu tout espoir du retour de ses frères. Il chercha un arbre pour s'y réfugier la nuit, hors d'atteinte des bêtes sauvages. Il en trouva un et réussit à se caler dans la fourche de deux grosses branches. Soudain, le hurlement lointain d'un loup perça lugubrement le silence. Guillermo tremblait de la tête aux pieds, son cœur battait. Mais au lieu de pleurer, il se mit à prier son Dieu pour qu'il prenne soin de lui. L'arbre sur lequel Guillermo était perché se trouvait devant l'un des quatre chemins du carrefour. Et voici que Guillermo distingua loin une lumière qui brillait et qui clignotait comme un tout petit point lumineux caché, puis visible, suivant le mouvement des feuilles. Pour lui, cela voulait dire qu'il y avait tout près peut-être quelqu'un qui aurait pitié de lui. Il remercia Dieu de tout son cœur et sans plus attendre, il descendit rapidement de son arbre, avec courage, décidé. Il se mit à courir dans la direction où il avait vu la lumière. Malgré la nuit, la peur des loups, il avançait rapidement. Au sommet d'une côte, il aperçut à nouveau la lumière plus proche, plus brillante. Cela le réconforta et remercia Dieu à nouveau. Il poursuivit sa course, éclairé par un croissant de lune qui lui permit d'apercevoir un courant d'eau qui lui barrait la route. Il fut rempli de terreur à l'idée de devoir le traverser. Il continuait à marcher et ses pieds lui faisaient mal. Soudain, il s'arrêta, haletant. Derrière lui, il entendit une respiration saccadée, la course d'un animal. Un loup, peut-être. Celui-ci se rapprochait de l'enfant, terrorisé, incapable d'avancer. À bout de force, le pauvre Guillermo s'écroula sur le sol, ferma les yeux, s'attendant à être mordu, déchiqueté d'un moment à l'autre. L'animal s'était approché. Guillermo, effrayé, sentait son souffle chaud sur sa joue. Mais, oh surprise, au lieu de le mordre, la bête le lécha, et même aboya de joie. Et évidemment, vous l'avez reconnu, c'était son chien pilote qui avait retrouvé son fidèle maître. Cette brave bête avait cassé sa chaîne et s'était lancée à la recherche de son petit maître. Quelle joie éprouva Guillermo lorsqu'il le vit, et qu'au lieu de trouver face à lui un ennemi, il retrouvera son unique ami sur terre. Il noua ses bras autour du cou de son chien, l'embrassa et le caressa longuement. Pilote manifestait sa joie en sautant sans arrêt autour de son jeune maître, enfin retrouvé. Guillermo, réconforté, ne sentant plus la fatigue, se remit à courir jusqu'au torrent. Le hurlement d'un loup leva ses hésitations et il entra dans la rivière pour la traverser. Bien vite, il perdit pied. Entraîné par le courant, il se serait certainement noyé si le brave pilote n'avait réussi à le ramener sur la berge opposée. Remis de ses émotions, il remercia son brave pilote sans oublier de remercier aussi son Dieu qui le lui avait envoyé et continua sa route. Soudain, un peu plus loin, au sommet d'une colline, Guillermo vit briller deux yeux dans le pénombre. En même temps, un grognement amplifié par le silence de la nuit le glaça d'effroi et le cloua sur place. Terrorisé, il ne savait que faire. Mais déjà, pilote s'était interposé, tout hérissé en aboyant furieusement. Le loup se jeta sur lui et une lutte terrible s'engagea, accompagnée de hurlements épouvantables. Le loup, affamé par plusieurs jours de jeûne forcé, se ruait sans arrêt sur le chien, mais celui-ci réussissait à contenir ses attaques. le cri de ces deux bêtes résonnait dans toute la forêt. Pendant cette lutte, Guillermo, à genoux, priait Dieu de le protéger. Il savait aussi que si le loup sortait vainqueur de ce combat inégal, il se jetterait aussi sur lui. Alors que Guillermo s'inquiétait de l'issue du combat, il fut stupéfait de voir le loup s'enfuir. Diapo numéro 5, s'il te plaît. Oui. Ils repartirent pour enfin, au sommet d'une colline, découvrir la cabane à une centaine de mètres. Guillermo s'arrêta, suffoqué. Il ne pouvait détacher son regard de la lumière qu'il voyait à travers la vitre et qui l'attirait irrésistiblement. Fou de joie, il courut jusqu'à la clôture en bois. Il ouvrit le portillon, avança vers la porte de la maisonnette et frappa de son petit poing. Son cœur battait très fort. Impatient, il appela trois fois de suite sans donner le temps de répondre. Enfin, il entendit une voix de femme qui demandait « Qui est là ?»« Un pauvre enfant perdu dans la forêt, » répondit Guillermo. « Entre, entre, mon petit !» dit une dame âgée en ouvrant la porte toute grande. « Toi et ton chien, soyez les bienvenus. » Guillermo vit alors devant lui une vieille femme, de petite taille, courbée par le poids des ans, vêtue d'une simple robe en laine bleue, la tête coiffée d'un bonnet blanc. « Entre, mon pauvre enfant !» « Entre, puisque la Providence t'a conduit jusqu'ici. » À l'intérieur, en sécurité, à la grande surprise de son hôtesse, le jeune garçon se mit à genoux pour remercier Dieu de l'avoir sauvé de la mort. Puis, entourant de ses bras le cou de son chien, il lui dit « Oh, mon brave chien, merci de m'avoir sauvé la vie deux fois. Sans toi, j'aurais été dévoré par le loup. Merci. » Puis, rassuré et confiant, il se leva et regarda autour de lui. Et parmi les découvertes, il vit un grand livre posé sur un guéridon. Il apprendra plus tard qu'il s'agissait d'une Bible. Soudain, Guillermo découvrit la blessure sur l'échine de Pilote. C'était une morsure faite par les crocs acérés du loup lors de la bagarre. Malgré tout, il avait continué la lutte. Guillermo éclata en sanglots. « Mais ne pleure pas, mon enfant, » dit la vieille dame. « Il léchera lui-même sa plaie, il n'est pas profonde, ça suffira. » Et la bonne grand-mère s'occupa de préparer une litière au chien et le donna à boire et à manger. J'ai oublié la 6, donc c'est la 7. Merci. Elle s'occupa ensuite du jeune garçon, mais avant de lui donner à manger et à boire, elle lui lava les pieds et fit sécher ses vêtements. Puis elle l'enveloppa dans une couverture et le déposa sur son propre lit. Et se penchant, elle déposa deux baisers sur la joue chaude de Guillermo. « Je ne peux pas m'endormir sans remercier Dieu d'abord, et sans vous embrasser, car vous êtes si gentille, comme l'était mon cher père. » « Tu n'as donc plus de père ?» Guillermo se mit à raconter toute son histoire et aussi la confession et la repentance de son père. Et pendant que l'enfant lui parlait, la brave dame, toute émue, dut s'asseoir, tant son émotion était grande. « Dis-moi, comment s'appelait ton père ?»« Roger Sanchez. » « Oh, mon enfant !» dit-elle, en joignant les mains, une lumière dans ses yeux, embuée de larmes. Roger Sanchez était mon fils, mon unique. Il s'est repenti de ses péchés et il est parti confiant en son sauveur. Alors mes prières ont été exaucées. Merci, merci mon Dieu. Et tu es son fils. Alors mon chéri, tu es mon propre petit-fils. Merci Seigneur, quelle joie! Alors, tous les deux pleurèrent de joie. Elle serra son petit-fils dans ses bras et l'embrassa tendrement. Ils remercièrent Dieu pour ce miracle et sa divine providence. Elle pria son Dieu pour qu'il accomplisse son œuvre dans le cœur endurci de ses autres petits-enfants, si méchants à l'égard de leur petit frère. Guillermo continua à vivre avec sa grand-mère. Il grandit et devint un adolescent robuste. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la rendre heureuse. Elle, tout à son rôle de grand-mère, lui enseignait à lire la Bible et à écrire. Tous deux s'occupaient de Pilote. Et quand il mourut de vieillesse, Guillermo l'enterra dans un coin du jardin. Les jours et les années passèrent. Ils étaient tous les deux bien attachés l'un à l'autre. Et chaque soir, avant de se coucher, ils lisaient la parole de Dieu et priaient. Mais un soir, la pieuse et douce grand-mère s'endormit pour toujours dans la paix du Seigneur. Quelle douleur ce fut pour Guillermo! Elle laissa sa maison et tout ce qu'elle possédait à son cher petit-fils. Guillermo épousa quelques années plus tard une honnête et brave jeune fille, aimant aussi le Seigneur. Dieu bénit leur foyer. Ils eurent plusieurs enfants qu'ils efforcèrent d'élever dans le chemin de la foi et de la sainteté. Plus tard, par un bel après-midi d'été, Guillermo, qui avait à peine dépassé la quarantaine, entouré de sa famille, écoutait sa fille cadette lire un passage de la vieille Bible qui avait appartenu à sa regrettée grand-mère, quand 6 hommes, en haillons, apparurent à l'orée du bois. Ils approchèrent, silencieux, à pas hésitants, du groupe familial. Ils n'avaient ni chaussettes, ni chaussures. Arrivés devant la barrière du jardin, ils s'arrêtèrent et demandèrent la charité. Guillermo eut compassion d'eux. « Vous semblez avoir faim et vous êtes bien fatigués, leur dit-il. Asseyez-vous sur l'herbe, nous allons vous apporter de quoi manger. » La femme de Guillermo prépara une grande casserole de bouillon et y rajouta de grosses tartines de pain. Un des fils de Guillermo le leur apporta. Ceux-ci remercièrent chaleureusement, puis s'adressant de nouveau au maître de maison, ils lui demandèrent s'ils ne pourraient pas dormir dans la bergerie. Cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas dormi dans un lieu sec et sûr, répéta l'un des vagabonds d'un air suppliant. Guillermo accéda à leur demande et ajouta qu'il leur donnerait des couvertures pour se protéger du froid. Puis Guillermo les interrogea. D'où venez-vous et où comptez-vous aller demain? Ils racontèrent qu'ils étaient bûcherons et qu'arrêtés par les soldats du roi pour avoir tué des serfs, ils avaient été mis en prison et que leur santé avait été éprouvée par l'humidité des cachots. Ils ajoutèrent que leur maison avait brûlé. À leur sortie de prison, ils n'avaient pas retrouvé de travail, sans amis. Ils ont dû mendier pour survivre. Ils voulaient maintenant travailler, honnêtement, mais n'avaient même pas l'argent pour s'acheter une hache. « N'avez-vous plus de parents dans votre région ?» questionna Guillermo. « Nous n'avons aucun parent, aucun ami, » répondirent-ils. « N'êtes-vous pas de la même famille ? Il y a entre vous un air de ressemblance. Nous sommes tous frères, fils d'un même père. » Celui-ci était bûcheron et s'appelait Roger Sanchez. « N'avez-vous pas un petit frère ?» questionna Guillermo. À cette question inattendue, posée dans un grand silence, les hommes en haillons se regardèrent, surpris et terrorisés. Ils firent tous le geste de se relever. Je suis ce petit frère, dit Guillermo, en ébauchant un beau sourire et d'une voix douce, sans amertume, il poursuivit. Dieu m'a délivré de la mort. Il m'a conduit dans cette maison où j'ai retrouvé ma grand-mère qui m'a servi de mère. J'ai vécu ici, en paix, heureux depuis ce temps où vous m'avez abandonné dans la forêt. Ne craignez rien, mes frères. Je vous pardonne. Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Alors écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. La providence vous a conduit jusqu'ici dans ma maison. Elle vous est offerte. Elle vous est ouverte. Ma famille et moi-même vous aiderons. Nous vous soignerons. Vous serez heureux chez nous. Ils s'agenouillèrent devant Guillermo en versant des larmes de repentance et demandèrent son plein pardon. Assurés du pardon de Guillermo, ils se relevèrent le visage illuminé. Nous n'avons pas prospéré depuis que nous t'avons abandonné. Au contraire, nous avons connu la confusion, le remords du péché, la désillusion, le malheur. À partir de maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous tous. Rappelez-vous surtout que Dieu accorde le pardon de vos péchés par Jésus-Christ, son Fils unique, si vous vous repentez réellement. Guillermo et ses fils, aidés par ses frères, construisirent une cabane pour eux dans un coin de la propriété. Il leur donna des paillasses pour dormir et des peaux de mouton pour se couvrir. Il leur procura aussi un banc, une table et des couverts et diverses autres choses. La 10. Il leur offrit une hache à chacun qui leur permit de reprendre leur ancien métier, de manière aussi à ne pas être une trop large de charge pour eux. Et tous les soirs, autour de la famille réunie devant un bon feu, il leur lisait un passage de la Bible de leur grand-mère. Tous moururent dans la foi, pardonnés par les mérites de leur sauveur. Guillermo et sa chère compagne vécurent plusieurs années après la mort des six frères. Ils eurent la joie de voir leurs enfants et leurs petits-enfants grandir et vivre dans la crainte de Dieu. Voilà toute l'histoire de Guillermo. Comme beaucoup d'histoires que nous trouvons dans la Bible, elles sont belles pour nous qui connaissons la fin heureuse, n'est-ce pas ? Celle de Joseph, par exemple, qui fut lui aussi rejeté par ses frères et qu'il pardonna lorsqu'ils vinrent à lui. Mais eux ne connaissaient pas la fin. Et il nous est dit dans la Bible toujours que l'Éternel fut avec Joseph. Ils ont confié leur vie au Seigneur. Ils ont marché parfois dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu était avec eux. Il a fallu cette maladie du père de Guillermo pour s'approcher de son sauveur. L'histoire ne nous dit pas s'il a prié pour sa guérison, mais on sait en tout cas qu'il a prié avec force pour son salut et celui de ses enfants. Et Dieu l'a exaucé. Guillermo, lui, s'est confié en Dieu dès sa jeunesse et il a été béni. Puissions-nous nous confier toujours, petits et grands, dans le Seigneur, nous aussi, quelles que soient nos circonstances de notre vie. Et ensemble, nous voulons lui dire, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Que ton amour pour moi dure à toujours.